Salut Xavier, comment tu vas ?
Écoute, ça va très bien, je viens tout juste d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Exactement au bon moment.
Ah non mais, déjà tu y as pensé, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Surtout qu'en plus, nos émissions, elles sont toutes en podcast, disponibles grâce à nos amis de Presse F5 en podcast sur l'adresse nerdelagame.pressef5.fr.
C'est ça.
Voilà. Et que en plus notre interface de podcast a eu des modifications et
des
améliorations très récemment.
Et on remercie Julien pour ça.
Et grand merci à toi, mon cher Julien. Et tu reviens quand tu veux dans l'émission, vu que apparemment c'est comme ça que tu nous sous-dois pour. tu améliores des trucs et comme ça, oui, t'as le temps en temps, t'as le droit de parler chez nous.
Voilà. C'est ça. Et puis, quand toi, t'es pas là, des fois, c'est quand même pratique.
Ah, j'ai entendu ça, ouais. J'ai entendu ça.
Émission de grande qualité.
Émission de grande qualité qui n'est pas encore au podcast. J'ai pas pu récupérer le son, je me demande bien pourquoi.
Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Oui,
donc, histoire de changer de sujet, une transition dégueulasse.
Cette semaine, nous allons parler de deux sujets. On va parler de Pokémon Go.
Pas que, mais oui.
Enfin, l'actu, c'est Pokémon Go, mais on va parler
L'actu, c'est gros sous. En vérité, et soft power.
Alors, ne pas oublier la tagline, normalement, de cette émission. C'est jeux vidéo indépendants, gros sous et lutte sociale.
Et là, effectivement, on en tag deux, hein.
Ouais.
Direct.
Oui.
Les gros sous et les luttes sociétales.
Luttes sociétales de mon côté, vu que donc on va parler de Pokémon Go et de comment Pokémon Go a été racheté par un groupe saoudien et que c'est pas anodin.
Et de comment tu spoil absolument tout
c'est
en deux phrases, quoi.
C'est pas anodin.
Oh là là.
Je dis juste que c'est pas anodin.
Oui.
Mais on va commencer par le doublage et l'intelligence artificielle.
Un sujet qu'on n'aborde pas de façon frontale pour l'instant.
Non.
Mais c'est peut-être la première fois qu'on va l'aborder sérieusement.
Non.
Sur un aspect très précis.
Effectivement. Pourquoi on va. Le point de départ. Bon, déjà, le point de départ, c'est que. À titre personnel, moi je suis très fan, pas de doublage, mais plutôt admiratif du travail des personnes qui font du doublage de manière générale, que ça soit en français ou dans d'autres langues d'ailleurs. Mmh. Et que je trouve que c'est un boulot à part entière et que ça faisait partie d'un des métiers ou en tout cas un des domaines qui semblait touché par l'arrivée de l'intelligence artificielle.
Un des plus vulnérables. Oui.
Exactement comme par exemple celui de rédacteur web, par exemple, de rédacteur de manière générale.
Ou graphiste
par rapport à Midjourney, etc. Mmh. Et en fait, ça fait partie des choses où avec l'intelligence artificielle et le fait de pouvoir, à partir d'échantillons de voix, recréer des phrases.
Alors déjà, sans même une base, enfin, il y avait déjà, si tu veux, de la création, de la lecture vocale,
oui.
Simplement, de texte. Donc il y avait déjà une base, et puis derrière, effectivement, c'est ajouté une technologie, la technologie a évolué pour, en plus de ça, pouvoir reproduire des timbres, un type de voix.
C'est ça. Et même si, exactement comme pour les visages humains, il y a toujours ce côté valet de l'étrange qui fait que les voix restent, on va dire qu'en faisant attention, en faisant très attention sur lorsqu'on va vouloir retransmettre des sentiments particuliers, on va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Mm-hmm.
Globalement, pour des petites choses, c'est quelque chose qui va faire
illusion.
Très bien illusion.
Mm-hmm.
Voilà. Si on en parle aujourd'hui, et pas plus tôt, déjà c'est parce que je pense qu'il manquait la news qui reliait ça clairement aux jeux vidéo. Et cette news, elle est arrivée le 26 février. Le 26 février, en fait, sur Instagram, il y a l'actrice Pascale Chemin qui annonce avoir refusé avec ses collègues la signature d'un nouveau contrat un nouveau contrat de doublage, un contrat qui a été signé avec une entreprise qui n'est pas citée et un jeu qui n'est pas cité.
Ah bon ?
À ce moment-là, il n'est pas cité.
D'accord. Et pourtant, on sait très bien pour qui il travaille.
Alors, le truc, c'est que Pascale Chemin, c'est pas une actrice inconnue, c'est une actrice qui est très très active dans le monde du doublage, qui est là depuis déjà une trentaine d'années. C'est pour rester simplement dans le domaine du jeu vidéo, c'est la voix du commandant Shepard dans la saga Mass Effect.
Dans la version féminine.
La version féminine de Shepard, c'est Pascale Chemin.
Oui, ça pose déjà un personnage.
Enfin, voix iconique, hein,
quand même.
Voix iconique. Et la preuve que c'est une voix qui est iconique, par exemple, quand par exemple un youtubeur comme le joueur du grenier a voulu faire une vidéo sur Mass Effect, il a appelé Pascale Chemin pour doubler les parties qu'il voulait faire par.
Oui, ça montre bien l'importance que la voix.
Voilà.
La voix qu'elle représente, en tout cas, avec ce, par rapport à ce jeu.
C'est ça. C'est-à-dire que, plutôt que d'essayer de l'imiter, on a dit non, on va prendre la vraie actrice parce que la voix, elle est iconique, c'est celle-là, quoi.
Et c'est une façon de faire relativement régulière de la part du genre du grenier.
Oui, là-dessus.
D'aller chercher directement les créateurs originaux des jeux ou même des œuvres qu'il veut parodier ou dont il veut parler.
Là-dessus, effectivement, il est assez propre.
Et surtout, il a les contacts pour. Enfin,
oui,
il a la visibilité, etc. Pour
il a la visibilité, il a les contacts. C'est-à-dire que quand il c'est pas un pimpin, on va dire, je sais pas ce que tu me demandes de faire, je sais pas qui t'es.
Voilà, c'est pas un gars qui fait ses vidéos avec 12 personnes qui les voient. Enfin,
voilà.
Il a la visibilité pour et le projet est suffisamment sérieux pour intéresser aussi les acteurs de doublage.
Moi, ce que je soulignais, c'est que, et on le verra un peu plus tard, il y en a beaucoup qui ont pas ce genre de scrupules.
Oui, je comprends ce que tu veux dire.
En fait, en regardant l'identité des autres comédiens qui étaient concernés par ces refus de signature, donc une trentaine de comédiens, on a deviné rapidement qu'il s'agissait du jeu Apex Legends, vu que les autres comédiens en fait doublaient les autres personnages du jeu en question.
Donc le Battle Royale d'Electronic Arts.
Voilà. Pascale Chemin en fait fait le personnage de Race dans Apex Legends. En fait, ce qui est en cause ici, c'était un avenant qui permet à Electronic Arts, de pouvoir utiliser leur voix afin d'entraîner une intelligence artificielle générative et à terme en fait se passer des comédiens en question.
D'avoir déjà la matière nécessaire pour reproduire et en faire ce qu'ils veulent.
C'est ça. C'est-à-dire que le truc, c'est que techniquement, ils ont la matière, c'est juste que
ils n'ont pas
le droit de l'utiliser pour entraîner une IA générative qui permettrait de s'en passer.
Mais tu as utilisé un terme intéressant, le droit.
Oui, effectivement. Le truc, c'est que on sait que EA, donc Electronic Arts, est très actif dans le secteur de l'IA. Notamment, il y a son patron, Andrew Wilson, qui avait confirmé faire déjà usage de l'IA dans le développement de ses franchises analysées, notamment eSport FC. Après, attention à savoir l'utilisation de l'IA. Est-ce que c'est de l'IA pour créer ou est-ce que c'est de l'IA en tant qu'outil ? Ce sont deux choses différentes.
Ce qu'ils avaient effectivement montré, c'était que, par exemple, pour les joueurs de foot de eSports FC, les joueurs avaient une position et quand ils courent, ils passent d'une position à l'autre, le corps évolue entre deux positions et que finalement les artistes ne faisaient que des positions intermédiaires, enfin que les positions finales, et que c'est l'intelligence artificielle en fait qui les aidait et qui leur proposait en fait les mouvements intermédiaires pour faire bouger, si tu veux, le personnage.
Dans le métier de l'animation visuelle, voilà. C'est ce qu'on appelle les intervallistes.
C'est ça.
Les intervallistes, qui est un boulot relativement ingrat, hein, en tout cas pour parce que en gros, par exemple pour les gens qui sauraient pas de quoi on parle, prenez un dessin animé par définition, ce sont des dessins les uns après les autres où on a l'impression de mouvement. C'est
parce
ça.
Parce qu'on en a mis au moins 24 par seconde.
Voilà, c'est ça. Ou moins.
Oui, mais en tout cas, d'en avoir 24,
en tout cas, mais... voilà, en tout cas, entre la position d'un personnage et la position à la seconde d'après, souvent, en fait, ce que vont faire les animateurs clés, ils vont faire les positions les plus importantes et ce qu'on appelle les intervallistes vont faire toutes les positions intermédiaires entre les deux. C'est un boulot pour le coup vraiment technique parce que c'est pas un boulot qui demande de la création, contrairement aux animateurs clés qui vont créer les positions les positions finales, les positions clés,
les formes, etc. Ouais,
mais après, voilà, par exemple, un animateur clé, sur une seconde, il va pouvoir faire, il va faire 8 dessins, ce qui en soi déjà pas mal, mais il faut faire, comme tu disais,
au moins 24 pour que le truc soit fluide.
Tous les autres pour que ce soit
fluide. Certains le font plus. Mais du coup, voilà, c'est là-dessus que EA avait montré que sur eSports FC et déjà sur FIFA avant, ils utilisaient l'intelligence artificielle pour les accompagner dans la construction de ces intervalles.
Voilà. Et en fait, toute la question sur ces sur ce type de métier, c'est de considérer est-ce que ce sont des métiers en fait qui sont uniquement techniques ou ce sont des métiers de création artistique. À titre personnel, pour tout ce qui est intervalle et créer du mouvement entre des positions qui existent déjà, j'estime que c'est du technique. Contrairement à l'illusion de créer du mouvement qui va être plutôt quelle position je demande au joueur d'avoir, qui là va demander une compétence.
Oui, de la technique et enfin de la technique, de la créativité et une adaptation finalement au contexte, au jeu auquel on est en train de donc vraiment la mise en contexte, etc.
Exactement. Donc, c'est pour ça que
c'est pour ça qu'on parle de création artistique à ce niveau-là.
C'est ça. Et notamment, tu parlais de ça, il y a aussi certains stades qui ont été générés par IA.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en gros, on donne les plans à une moulinette et c'est parti, quoi.
Ok. Ça, j'avais pas vu, ni même constaté, finalement, j'ai vu un peu de jeu.
Sachant que, d'abord, en fait, c'est avant d'être retouché par certains graphistes sur certains détails, quoi.
Ça se fait aussi, effectivement, une première proposition et ensuite retouché par des artistes. Là, je trouve ça un peu plus tendancieux. Ça peut avoir, c'est un peu plus discutable dans
ce cas-là. Donc, c'est bien parce qu'on a un premier exemple qui est technique, un deuxième où c'est tendancieux, un troisième où c'est carrément Andrew Wilson. Il a affirmé qu'il voit dans la tendance de l'IA un moyen de mieux monétiser les jeux avec des contenus ultra personnalisés.
Voilà. Donc, il a juste l'intention en fait de faire créer des trucs en boucle par de l'IA pour te les vendre. Et ça va. Enfin, on sait déjà que ce sera dégueulasse. Et d'ailleurs, il a dit ça il y a un moment. Maintenant, il a quand même dit ça il y a quelques mois.
Oui.
Et on n'a encore rien vu venir.
Oui, c'est ça.
Est-ce que c'est parce qu'ils attendent d'avoir un truc propre avant de le proposer, ou est-ce que de toute façon ils n'y arrivent pas? Je suis curieux.
Je pense aussi qu'il y a encore le côté réponse du public qui est les gens avant.
Frileux, ouais.
En gros, après toutes les affaires, notamment concernant la blockchain et les NFT. Les gros acteurs de l'industrie sont sont un petit peu plus frileux sur le fait d'avancer à découvert sur ces choses-là, en disant voilà, nous on fait sur l'IA et tout. C'est ils ont vu qu'il y a des choses que les joueurs ne désiraient pas, en tout cas, ou en tout cas, ceux qui n'aimaient pas étaient très vocaux, et au-delà d'être vocaux, surtout, ils n'achetaient pas.
C'est ça, et pour l'instant, j'ai l'impression que l'industrie attend que Ubisoft aille se planter avant avant de continuer, tu vois, parce que pour les NFT, ils sont tous arrêtés en regardant Ubisoft aller dans le mur.
Oui, enfin, ils attendent que quelqu'un aille à fond sur le côté IA pour que ça se plante derrière.
Oui, mais c'est vu qu'ils ont fait ça sur les NFT, sur les trucs comme ça, et que c'est Ubisoft qui est allé en premier se planter.
Ubisoft a eu un discours concernant les IA, mais n'a pas de pratique.
Je parle des autres.
J'ai bien compris. Hein,
mais effectivement, par rapport aux IA, bon, pour l'instant, comme tu dis, c'est un peu au point mort sur les gros.
Sur les petits, on a plein d'anecdotes,
on a plein d'exemples
sur du texte, sur du graphisme, sur de la musique, beaucoup de choses.
Mais là, du coup, la discussion, donc, ça avait commencé par rapport à du doublage vocal français.
Exactement. Donc les enregistrements, en gros, il y a, j'imagine, une mise à jour de Apex qui était prévue avec des nouvelles voix. Les enregistrements actuellement, ils sont mis en pause et en attendant une réponse de Electronic Arts par rapport à ces arrêts-là. Et en fait,
parce que c'est des contrats qui sont signés à chaque fois qu'il y a du travail fourni, ils sont pas engagés par Electronic Arts pour être les voix et que
non, c'est pas des contrats publicitaires, genre t'es égérie de la marque pendant 8 ans, tu vois.
Ouais, voilà, non plus. Bon,
c'est par session d'enregistrement.
C'est un deal, quoi. Ouais. C'est un deal à la fois.
C'est des deals par session d'enregistrement. Et donc, il y a un journal en ligne qui s'appelle Tech & Co.
Qui est la version tech de BFM.
C'est BFM. Hein. C'est Altice. Oui, c'est les chaînes Altice. Mmh. C'est ça.
Si tu dis BFM, ça parlera plus, je pense, aux gens que Altice.
Oui, bien sûr, hein, mais enfin.
Mais c'est une, voilà. Mais
c'est je ça, veux dire, la Galaxy Altice, c'est BFM, c'est RMC, c'est bon.
Voilà. C'est ça.
Et donc, Tech & Co, que je consulte régulièrement, parce que pour le coup, en termes de avoir les accès à l'industrie et avoir les bons contacts et avoir des articles qui sont bien fournis. En France, sur des choses françaises, je trouve plutôt bien.
J'allais dire neutre, c'est pas le terme, mais en tout cas,
il rapporte.
Intéressant. Voilà, c'est de l'information.
C'est ça.
Il y a pas forcément de parti pris ni quoi. C'est de l'information.
Bah typiquement là, par exemple, le fait d'être allé voir Pascal Chemin après ça pour savoir ce qu'il en est. C'est simplement un boulot journalistique. C'est pas un boulot militant, c'est juste un boulot journalistique qui reste à noter, et c'est pour ça que voilà. Et donc je vais donner des extraits de cette interview de Pascal Chemin. En France, depuis quelque temps, dans le jeu vidéo, on a un gros problème. Nous n'avons pas de convention collective. Il y a un manque d'encadrement du doublage. Il y a des clauses protégeant les comédiens contre l'IA, mais celles-ci sont très floues, faute de cadre juridique.
Ok.
Nous ne voulons pas que nos voix et que notre savoir-faire entraînent une machine qui à terme remplacera les comédiens. Aujourd'hui, on est obligé d'envoyer chaque contrat à un juriste pour vérifier qu'il n'y a pas une annexe douteuse.
Ok. Donc il n'y a pas de confiance. Ouais,
okay. Voilà. Je ne souhaite pas que le métier échappe à l'interprète humain, même si c'est quelque chose d'évident pour ceux qui veulent faire du profit dans cette industrie et qu'on se rend bien compte qu'il faut une forme de rentabilité, mais pas à tout prix. Aussi, Pascal Chemin, globalement, elle s'étonne de l'absence... là, je paraphrase parce que le truc était long. Elle s'étonne de l'absence de réponse de la part des pouvoirs publics, en premier lieu Rachida Dati, ministre de la Culture.
Okay.
Pour l'instant, nous ne sommes pas entendus. Car ils font un amalgame en partant du principe que nos revendications se résument au fait que nous sommes contre l'IA, ce qui est faux. Il faut réguler. L'IA doit rester un outil sans qu'elle ne remplace l'être humain. Mais c'est un discours inaudible dans une société pro-IA.
Okay.
C'est exactement, en fait, un peu le discours que je voulais porter à la base, en tout cas en parlant de ça, c'est... il y a une différence entre être un outil et de la création. C'est-à-dire qu'un crayon ne remplacera jamais un être humain pour créer quoi que ce soit, mais un crayon reste un outil indispensable pour faire un dessin. Et pour moi, en fait, exactement comme le boulot d'intervalliste, qui était un boulot ingrat, en fait, qu'on donnait aux gens pour qu'ils commencent avant de pouvoir avoir la chance de faire autre chose.
Plus important, avec plus de responsabilité créative.
Mmh, c'est ça. Je dis pourquoi pas. Après, par exemple, typiquement, il va y avoir des gens qui vont dire que si on a des problèmes avec l'IA, on peut garder les comédiens pour les rôles principaux et ensuite pour les rôles secondaires prendre de l'IA vu que voilà. Sauf que exactement le même principe, c'est que avant qu'un comédien devienne chevronné, il faut qu'il commence quelque part, et en général il commence par avec des ambiances et des rôles secondaires,
oui, des voix de figurants, enfin de la même façon que certains acteurs commencent par faire de la figuration.
C'est ça.
C'était un des arguments de la vidéo de Mr. Fox.
Oui. Je vais en parler. Effectivement, okay. C'est bien que tu parles de la vidéo de Mr. Fox, hein, parce que
après c'est peut-être pas le moment. T'as peut-être encore d'autres choses à dire.
C'est bon. Je peux l'aborder maintenant. Mais c'est surtout déjà que elle parle d'un mouvement qui s'appelle Touche pas à ma VF, qui est pas mal, je pense, de rappeler maintenant.
Et qui est plus global que le jeu vidéo.
Voilà, qui est global en fait sur le monde du doublage, en fait, qui est soutenu par des figures du métier et qui alerte sur les dangers de l'intelligence artificielle générative et qui appelle surtout à la légifération pour protéger les artistes et la culture. Actuellement, j'ai regardé encore ce matin, c'était 165 000 signatures.
Ah oui. Ok. Donc, et c'était, ça partait plus ou moins du fiasco public de la l'utilisation de la voix d'un
Alain Dorval,
donc le doubleur historique de Sylvester Stallone.
Effectivement,
qui est décédé l'année dernière.
En fait, c'est ça. Le truc, c'est que l'IA, au-delà du côté les gens n'auront plus de boulot, elle pose aussi des questions d'ordre éthique. Notamment, en fait, elle permet d'utiliser des voix sans consentement actuellement. Oui. Typiquement, je disais tout à l'heure que là, IA. Yeah.
c'est subtil. Hein. Tu te demandes s'ils n'ont pas fait exprès quand même dans leur nom, les gars. Ils sont bons.
Hein. Ah, ils sont bons. Hein. Que Electronic Arts, en fait, eux, ils sont allés voir les comédiens en disant on va vous faire signer des trucs. Hmm. D'accord. Mais Electronic Arts fait ça parce qu'ils sont très, très, très gros, qu'ils ont une armée d'avocats, et ils ont peur d'un braquage public si jamais. Ce genre de choses. Mmh. Des productions beaucoup plus petites, beaucoup plus amateurs et de manière générale des margoulins ne s'embêtent même pas avec ça. Et il y a déjà, vous trouverez profusion sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, des vidéos en fait qui vont faire des parodies ou reprendre, carrément créer du contenu en disant voici, regardez ce que j'ai créé, en reprenant des voix d'acteurs connus, mmh. en leur faisant dire des choses, tu dis ah bah c'est drôle, mais après quand tu utilises par exemple un personnage connu pour lui dire des trucs ultra racistes, ultra homophobes, ultra...
Tu veux dire que genre tu prends Elon Musk et tu... Non, pardon.
Elon Musk n'a pas besoin d'être doublé.
Exactement.
Pour ça.
Non, mais c'est pour ça. j'ai confondu.
Voilà. Mais tu prends justement des personnages qui sont populaires et tu prends du coup la version, l'acteur ou l'actrice de doublage et pour faire dire des choses horribles à ces personnes-là sur du deepfake, ce genre de choses.
C'est ce que j'allais dire, c'est le principe du deepfake.
Et c'est, voilà. Peut-être que certains se souviennent de la fameuse affaire qui a fait rire beaucoup de monde sur la femme qui s'est fait
Avoir par un Brad Pitt
par un faux Brad Pitt, voilà.
Tu avais cette logique là et puis tu as effectivement toutes les personnes, enfin les stars hollywoodiennes qui se sont plaints de deepfake sur leur visage.
Oui, il y a un truc qui est un sport qui est très américain, hein, qui est l'usurpation d'identité de fans pour soutirer de l'argent aux gens, ce qu'on appelle le phénomène du catfish.
Se faire passer pour ce qu'on n'est pas.
Voilà, en utilisant une star et en mettant à profit justement la notoriété et la crédulité des fans par rapport à la star qui sont absolument fans transis de la star en question et du coup qui vont lui accorder à peu près tout et on s'est dit oui non mais bon c'est des trucs qui arrivent pas bon quand même moins en France, la preuve que si vu que la personne s'est fait soutirer quand même des centaines de milliers d'euros si j'ai pas de bêtises,
un truc comme ça. Ouais,
donc
c'est
ouais donc c'était donc il y a ça et puis il y a aussi les voix sans consentement et puis par exemple quelqu'un de mort il peut pas donner son consentement.
Mais c'est toute la question.
Voilà.
À qui appartient
voilà. On peut recréer les voix de comédiens décédés et ça pose aussi des problèmes de droits d'auteur de manière générale.
Mais ça posait déjà la question sur les visages,
oui.
L'utilisation finalement de l'apparence.
C'est ça.
La question maintenant se pose techniquement parce que ça devient possible techniquement d'utiliser également les voix.
C'est ça. Et en fait, il y a eu notamment des remous récents, comme tu le disais, avec justement l'utilisation de la voix d'Alain Dorval, qui est depuis extrêmement longtemps et dans la tête de tout le monde, la voix française de Stallone. Mmh. Il se trouve que Alain Dorval est mort cette année. Stallone, lui, n'est pas mort.
Et non.
Et il sort des films. Et vu le film... Bon, je vais pas finir ma phrase.
Oui, voilà. il
vieillit. C'est de la merde.
Hein. Il vieillit, bon.
Ouh, voilà. C'est de la merde. Bref, il y a un film qui est sorti. Sachant qu'il y avait déjà ça avec Tulsa King et d'autres, où il y avait déjà la question de qui va remplacer Alain Dorval pour le
prochain film de Stallone.
Et en fait, il y a une boîte qui s'appelle Eleven Labs, qui est très spécialisée en intelligence artificielle. Qui a déjà fait pas mal de stunts, notamment en recréant le personnage d'Elon Musk à l'intérieur de Fallout New Vegas pour remplacer Mr. House.
Je ne commenterai pas cette information.
Voilà.
Oui, non mais...
Bref.
Et du coup, pourquoi eux, en fait, ont fait quelque chose? Qu'est-ce qu'ils...
Alors, en fait, le truc, c'est qu'en fait, Les producteurs du film en question ont dit écoutez, ce qu'on peut faire, c'est que on a plein d'échantillons de la voix d'Alain Dorval. On peut essayer avec la voix d'Alain Dorval, avec l'accord de la famille d'Alain Dorval, on peut essayer de voir ce que ça donnerait de générer le doublage avec la voix d'Alain Dorval
automatiquement.
Voilà. Je crois que le truc n'est plus en ligne actuellement.
Il est plus sur la chaîne officielle.
Voilà, en tout cas, il était sur la chaîne officielle et tout. Donc c'était.
Il est trouvable encore.
Pour dire que c'était pas un leak.
C'est pas par erreur.
C'est pas une erreur ou quelqu'un, un truc malveillant et tout. Non, c'était vraiment le producteur qui a dit voici
le résultat de ce qu'on a fait.
Le résultat est proprement dégueulasse à tout point de vue et limite flippant en fait, hein, parce que le.
Il est gênant autant que.
Il est gênant parce que tu dis mais. Alain Dorval, même dans les moments où il était moins en forme, jamais il jouait aussi mal que ça.
En fait, ça donne le film. T'as pas envie de le voir parce qu'il a pas l'air terrible.
Mais il y a aucune intonation, il y a rien. C'est horrible.
Tu te dis mais
c'est dégueulasse.
Enfin, oui. En fait, t'as envie de le regarder, mais pour le côté, t'as envie de voir l'accident quoi.
Envie
de voir l'accident.
C'est ça. Et en fait, là où ça a gueulé, c'est. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont gueulé parce que Alain Dorval est mort et il faut pas utiliser sa voix. Mais là, ce qui est plus intéressant, c'est quel est le cadre juridique qui est utilisé au cas où justement les gens auraient dit ah bah c'est pas mal finalement on peut y aller comme ça. C'est quoi le cadre juridique pour les autres comédiens qui eux ne voudraient pas que leur voix soit réutilisée, sachant qu'il existe des enregistrements d'Alain Dorval et des vidéos d'Alain Dorval qui dit ne jamais utiliser ma voix en l'IA.
Ok, suffisamment au courant de la technologie pour le dire.
Il y a des enregistrements où il dit voilà, le doublage c'est le vivant, l'acting c'est le vivant, et que on peut pas donner ça à une machine. Et là, on va dire que rien que l'utilisation, je pense que je sais pas s'il était enterré, mais je pense qu'il y a de quoi créer une sacrée pile électrique avec vu comme ça tourne.
Le nombre de tours qu'il fait dans son.
Ouais, ouais.
Oui. Rien que ça, en fait, de savoir que lui-même avait déclaré ne pas vouloir et de voir que ça a quand même été fait.
Voilà, c'est ça.
C'est gênant. Ouais.
C'est ça. Et le truc, c'est exactement
mais
comme.
Tu parles de cas juridique, effectivement, dans lequel ça pourrait être autorisé ou non.
C'est-à-dire que là, il n'y a rien. C'est-à-dire que lui dit j'ai pas envie, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire de son vivant pour dire je veux m'assurer que ça n'arrive pas.
C'est pas comme le don d'organes où il y a un cas juridique qui dit si tu l'as dit, si tu l'as pas dit.
La réponse est rien. C'est-à-dire que si lui dit non, jamais ça n'arrivera pas, allez vous faire voir. Et que les enfants disent bah non, nous on veut les sous et ça nous intéresse bien.
Oui, est-ce qu'ils ont quand même le droit?
Pour l'instant, actuellement, il n'y a rien qui l'empêche.
Oui, et c'est pour ça que c'était intéressant, effectivement, tu parles de ces enfants, parce qu'il y a une réaction assez visible.
Parce
qu'il y a une des enfants d'Orval qui est quand même relativement connue.
Oui, c'est.
Qui est relativement ministre.
Ouais.
Je pense que c'est la bonne façon de le dire.
Parce que un des enfants d'Alain Dorval s'appelle Aurore Berger, ministre de trop rien et de trop de choses, de manière générale.
Un tout petit peu trop.
Et ministre de rien aussi, de manière générale aussi.
C'est une bonne définition, je trouve. Et du coup, elle a eu le temps, effectivement, d'aller se plaindre de résultats.
Et d'aller se plaindre que les méchants acteurs ne respectent pas sa volonté. Pas sa volonté de dire que c'est pas bien, sa volonté d'essayer de gratter de l'argent à partir de la voix de son père.
Ça reste, là, j'ai envie de dire, il y a un côté cuisine interne, familiale, si tu veux. Bon,
ouais,
maintenant, ça a permis de mettre sur le devant
après,
de la scène.
Après, j'ai envie de dire, pour l'instant, c'est simple. Hein, si tu veux, on peut parler de RG Productions et de Moulinsart.
Oui, il y a d'autres. Il y a d'autres guerres intestines.
Je peux te dire que
sur l'héritage des droits.
Vu que ça brûle, ça brûle.
Mais du coup, ça a permis effectivement de mettre très en avant la question, tout simplement.
Je ne veux pas te mettre dedans. Ma position, c'est qu'il faut de toute façon légiférer de manière générale. C'est juste que actuellement, en fait, les cadres juridiques qui existent et qui ne sont pas respectés ce sont les cadres biométriques, c'est-à-dire que la voix est une donnée biométrique, donc la voix est une donnée biométrique.
Donc légalement reconnue.
Donc légalement reconnue. Par contre, c'est une utilisation. Mais par contre, vu que c'est une donnée biométrique, son utilisation artistique n'est pas légiférée. Donc bon, le seul truc sur lequel on peut attaquer, c'est ça en disant c'est une voix biométrique, donc t'as pas le droit de la collecter.
Ok.
Bon. Mais c'est pas respecté parce que justement c'est pas tout le monde, parce que ce n'est pas dans le but dans des buts de sécurité, donc c'est compliqué en général d'attaquer sur ce domaine là. L'autre domaine, ce serait le RGPD. Le RGPD donc qui est une loi de protection des données en Europe. Et c'est protection de ses propres données, et dans ces données il y a aussi bien son adresse, son apparence, mais aussi on peut rentrer la voix dedans.
Okay.
Mais pareil, comment prouver, enfin comment dire, IA ne fait pas, n'a pas, s'ils ont pas envie de faire une déclaration CNIL de ce qu'ils ont, ils la font pas.
Oui, il y a pas de formule, on va dire. T'as pas de passage obligé, que t'es obligé
c'est
de
ça.
Remplir des
c'est
trucs
ça.
Pour...
C'est que pour l'instant, en fait, les seuls moyens qui existent, qui sont juridiques, c'est des moyens qui sont détournés, qui concernent pas l'aspect artistique de la chose.
Et du coup,
ni même l'aspect technique, au final.
Et du coup, la seule protection qui pourrait exister, ce serait celle de contrats signés, d'accord, de partie à partie, qui pourrait dire, ok, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit, à ce moment-là, ce serait respecté, mais dans un cadre individualisé.
Et en plus, qui ne concernerait uniquement que
l'œuvre en question et les artistes en question.
Et c'est surtout, c'est du droit commercial.
Oui, voilà.
C'est pas du droit, c'est pas du droit classique, c'est du droit commercial. Donc c'est autre chose aussi.
Il manque tout un pan de la protection que ça
et
nécessite.
Notamment sur la propriété, sur le droit d'auteur, sur.
Voilà. Complètement.
Y a rien de tout ça. Donc. Pour moi, il faut tout simplement légiférer. Après, dans quel sens légiférer? Moi, j'aimerais quelque chose d'assez strict. Mais de base, le truc, c'est que sans légifération, de toute façon, il n'y a rien. Donc, c'est à fait du slip.
Oui,
la seule chose qui empêche les grosses boîtes d'y aller, c'est la peur du backlash. S'il y a une grosse boîte qui arrive à faire passer le fait que c'est bon, l'IA, ça passe et on s'en fout. Voilà.
Oui, après, ce sera compliqué de revenir.
Ne pas oublier que, pas plus tard que la semaine dernière, Amazon a annoncé que sur Amazon Prime, il y a plein de films, ils vont les doubler de façon automatique et via de l'IA. Leur justification, et j'arrête là parce que il est quand même, il faut un peu de temps. Leur justification, c'était de dire oui, mais en fait, si on le fait pas comme ça, ce sera trop compliqué de trouver des acteurs pour doubler ça. Parce que Jeff Bezos n'a pas d'argent.
Oui, j'ai rarement vu une justification aussi dégueulasse. Et il s'est passé quoi depuis le début de l'industrie du cinéma? Depuis le début qu'on double des films, en fait. Ils sont tous morts, ceux qui ont essayé?
Parce qu'en gros, c'est des films d'origine, c'est des films latino-américains qui sont doublés justement en anglais de façon automatique.
Ok.
Voilà.
Ça risque d'être beau à voir.
Voilà. Donc, la news, elle a popé. Forcément, elle a fait pas mal de bruit chez les voxophiles. Ça concerne que des contenus en anglais, mais bon, c'est-à-dire que c'est. Enfin.
Je pense pas que ça puisse, localiser ce genre de problème.
C'est
une technologie qui est disponible partout.
Le vrai message, c'est que c'est une très grosse boîte qui a pas dit on va le faire, qui a dit ah, au fait, c'est déjà là.
Oui. Mais du coup, bon, là. Effectivement, comme tu le dis, comme tu as tourné tout autour, finalement, dans l'information, c'est pas un truc qui concerne uniquement le jeu vidéo. Ça va toucher le jeu vidéo à la marge, finalement. Mais
forcément, à part.
Mais le cœur du truc, il est beaucoup plus global et sur l'industrie l'entertainment de façon générale.
N'oubliez pas, c'est que de plus en plus, c'est-à-dire que le côté, le fameux débat VO, VF, etc., c'est un débat. Je vais être moche, hein, mais c'est un débat au final assez privilégié. En tout cas en France.
Oui, parce que
80% des contenus sont consommés en...
qui sont disponibles avec un doublage français.
Je dis contenu, c'est aussi bien du jeu vidéo, de la série, du film, ce que tu veux.
Du feuilleton, ce que tu veux.
Et que dès que tu as une œuvre en France, dès que tu as une œuvre qui n'est pas disponible en VF et pas juste du sous-titre, doublé.
Tu perds une énorme partie du public.
Mais c'est clair. Et d'ailleurs, Libit, en gros, tu sous-titres, c'est bien, mais entre complètement en anglais et juste sous-titré...
Oui, ça amène pas tant de monde que ça.
Ouais.
Donc oui, c'est tout un pan de la culture qui va, en tout cas, qui est sur le... qui n'est pas en danger en tant que tel, mais qui va... C'est toute une industrie qui va avec et les acteurs qui jouent ces rôles-là qui sont vraiment...
C'est pas pour rien que justement des boîtes qui font des jeux avec des volontés vraiment planétaires, etc., quand ils disent le territoire français, au final, pour eux, c'est pas grand-chose par rapport à un... Enfin, c'est pas en soi.
Par rapport au monde, oui.
S'ils s'embêtent à doubler, c'est qu'ils savent que ça sera du simple au quadruple s'ils le font.
Oui, oui, carrément.
Le Call of Duty... Tu dis, oh bah quand même, Call of Duty, c'est bon, ils en sortent, machin. Je te jure, ils le sortent, alors que pourtant, personne joue au solo. Hein. Ils le sortent sans doublage. Ça brûle. Ça brûle. En France, on dit c'est scandale.
Non, c'est possible. C'est...
Tu sors IFC sans les commentaires français, ça brûle
Ça va être compliqué.
Tu vois ce que je veux dire?
Bon. Et assez, on en avait parlé dans une émission précédente. Ils n'ont pas eu besoin de ça pour moins en vendre cette année.
Oui, non, mais ça gueulerait. Mais
bien sûr.
Ça gueulerait beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire?
Complètement. Et donc là, pour conclure, on est sur le début de la discussion. On est sur quelqu'un qui demande une législation.
Ouais. Pour l'instant, en fait, pour l'instant, c'est lettre morte, en fait. Voilà. Ça, le truc, c'est que malheureusement, c'est que des coups d'éclat entre guillemets. Des acteurs qui disent ça on refuse parce que les studios veulent aller de plus en avant et les acteurs refusent avec leurs petits moyens, sachant que de plus en plus refuser des contrats c'est compliqué.
Et c'est pour ça que là, justement dans la vidéo de Mr. Fox c'était cité l'initiative Touche pas à ma VF qui va, tu parlais d'une pétition et il y a effectivement un appel également à légiférer mais surtout du coup à interpeller les députés pour ça.
Donc c'est ça. Dans les vidéos de Mr. Fox, il disait que si justement
vous voulez
agir, lisez justement le contenu de la pétition en question, renseignez-vous et interpellez votre député pour que
la question soit posée
et qu'il y ait une décision
qui soit prise. Quoi.
C'est ça.
Ok.
Donc voilà.
Okay. Bah écoute, à suivre.
Voilà. Alors à suivre. Hein, de toute façon, il y aura une suite et on en parlera ici.
Ok. Eh ben merci en tout cas. J'enchaîne direct.
Pokémon, attrapez-les tous.
Alors, on va surtout parler en fait d'un truc dont on a déjà beaucoup parlé. On va parler de l'Arabie Saoudite.
Ben Salman.
Voilà, de lui qui
Ben
continue,
Salman.
Qui continue à acheter en fait plein de trucs dans le jeu vidéo. Donc, a été annoncé le 12 mars, donc hier, que Niantic, développeur du jeu en réalité augmentée Pokémon Go. Donc quand même, je pense que le terme, ne peut que parler même à des gens qui n'y ont jamais joué. Donc Niantic a vendu sa division de jeux mobiles à Scopely pour un montant de environ 3,5 milliards de dollars. Il y a des sources qui disent 3,2, d'autres qui disent 3,8.
Je lis un peu partout 3,5.
Mais la majorité en fait converge vers 3,5 milliards. Et puis de toute façon, 3,5 milliards.
Mais 3,5 milliards.
3,5 milliards.
S'il vous plaît.
On est entre 3,2 et 3,8.
On a dit gros sous, hein. Pas petite monnaie.
Entre 3,2, 3,8, 3,5, je pense que c'est un bon compromis. Et puis de toute façon, on n'est pas à un PSG près. Voilà. Donc ce qui a...
Mais quelle jalousie.
Ce qui a été acquis, par Scopely auprès de Niantic, donc toute la division jeux mobiles, c'est donc évidemment Pokémon Go qui est le grand connu du truc, mais d'autres jeux de Niantic comme il y a Pikmin Bloom, oui. Monster Hunter Now, il y a des applications, des services comme Campfire et Wayfarer, il y a d'autres, voilà, il y a tout un panel si tu veux de trucs, mais évidemment le gros morceau du truc c'est Pokémon Go.
Est-ce que tu as aussi, t'avais regardé aussi l'histoire histoire de qu'est-ce qui fait que Niantic, justement, qui a cet énorme succès à son compte, en fait, est en position de se faire racheter.
On va en parler.
Ok. Parce que, normalement, quand tu dis, bah, c'est bon, j'ai des bases solides, j'ai un énorme truc derrière moi.
Il y a plusieurs raisons.
Pourquoi on m'en rachète ?
Il y a plusieurs raisons.
Mais du coup, parler d'Harry Potter, alors ?
Aussi. Ah. Mais pas que, il y a d'autres raisons.
Ah, d'accord.
Il n'y a pas que celle-là. Mais donc, qui c'est qu'achète ? On a dit Scopely. Scopely, oui. Je pense que ça ne parle pas à grand monde, en vrai. Parce que c'est un nom de jeu, d'éditeur de jeux mobiles. Mais peut-être...
Les jeux
sont connus.
De manière générale, les éditeurs de jeux mobiles...
Ouais, sont quand même beaucoup moins visibles.
Honnêtement, par exemple, si on demande aux gens, même qui sont intéressés, c'est quoi l'éditeur de Clash of Clans, la plupart ne savent pas, alors que...
C'est quand même pas n'importe qui. Mais c'est King.
Ouais, voilà.
C'est
voilà.
King.
Oui, c'est King, ouais. Pardon, c'est ABK.
Oui, voilà, Activision, Blizzard, King, qui maintenant appartient à Microsoft.
Voilà, comme... en gros, les gens, ils connaissent à peu près Rovio, King, et puis ça s'arrête là.
Oui, voilà, quelques noms. Mais du coup, Scopely, c'est pas non plus n'importe qui dans le domaine, parce qu'ils éditent des titres comme Monopoly Go, quand même un gros truc dans le Stumble Guys aussi, Star Trek Fleet Command, Scrabble Go. Donc ils avaient quand même un petit peu de...
notamment, je connais pas mal de gens qui jouent. Mais clairement, hein, dans tout ce que tu dis, la machine à imprimer les billets, c'est Monopoly Go.
Bien sûr.
Ce qui est fou pour un jeu à la base anticapitaliste. Mais bon, on y reviendra un autre jour.
Histoire très intéressante du jeu Monopoly en
dimanche, voilà. D'accord.
Toujours est-il que Scopely, donc... c'est un truc qui, comme tu le dis, c'est une machine à cash qui avait déjà attiré l'attention de gros investisseurs, puisque il a été acheté en juillet 2023 pour 4,9 milliards de dollars, donc plus cher que Niantic, enfin que la division jeux mobiles de Niantic, et avait été acheté en juillet 2023 par le fonds souverain d'Arabie Saoudite, enfin via Savvy Games Group, donc qui est donc financé par le fonds souverain d'Arabie Saoudite. Qui est l'argent de poche de Mohamed Ben Salman.
C'est ça.
Dont on avait régulièrement parlé ici.
Dit, qu'on surnomme ici affectueusement...
Le découpeur de journalistes.
Le découpeur de Khashoggi.
Voilà.
Voilà.
On y reviendra aussi. Alors, pour mettre un petit peu remettre un peu dans le contexte les chiffres de Pokémon Go. Donc c'est un jeu qui est en réalité augmentée, qui permet de chasser des Pokémon dans la vraie vie, qui est sorti en 2016.
Et qui a été un phénomène de société quand il est sorti.
Oui, et alors...
Qui a relancé à lui tout seul le marché des batteries externes.
Oui, et qui a remis les gens à marcher dans la rue.
Qui a forcé les nerds à marcher dehors. Quoi.
C'est ça.
Fou.
Alors, en fait... Je ne vais pas parler des chiffres de l'époque, parce qu'ils étaient incroyables, etc. Le jeu a eu une histoire. On va parler des chiffres de l'année dernière,
oui,
de Pokémon Go. Parce que, donc, selon les informations communiquées au moment du rachat...
Ça marche encore bien. Hein.
Mais 100 millions de joueurs sur l'année 2024. 100 millions de joueurs.
Et oui.
Donc la longévité, l'attrait constant du jeu, c'est clairement le jeu continue, si tu veux.
100 millions de joueurs...
En termes de revenus, c'est plus $1 milliard en 2024.
Pour donner un truc... Tu te souviens quand on parlait de giga méga succès pour Marvel Rival?
Ouais.
Bah, 100 millions de joueurs, c'est 5 fois plus que Marvel.
Ouais, voilà, ouais. Voilà. Après, c'est pas le même support.
Mais c'est juste parce que nous, on parle...
100 millions de joueurs sur un jeu qui est sorti en 2016.
Non, parce que finalement... on parle souvent de gros succès, etc.
En millions
de joueurs, etc.
Et on parle de 100 millions de joueurs
d'actifs
d'un jeu sorti en 2016.
Il y a 10 ans.
Et qui, à l'époque, à mon avis, avait fait mieux encore. Donc, c'est un truc monstrueux.
Non, mais à un moment, Pokémon Go, t'avais littéralement une personne sur deux qui y jouait, quoi. Dans le monde.
Oui, complètement.
C'est stupide.
Donc voilà, mais ça souligne donc la puissance encore actuelle du jeu, et évidemment l'intérêt pour Scopely, et donc par définition, de l'Arabie Saoudite, pour le marché. Parce que, donc malgré un certain tassement, évidemment, avec les années, et donc il a conservé donc sa base fidèle, on le voit aussi avec les événements en direct. Comme les Pokémon Go Fest, qui continuent d'attirer du monde. À Paris, la prochaine Pokémon Go Fest de Paris, ils attendent 30 000 personnes. C'est quand même encore quelque chose qui continue finalement de bouger les gens et de... c'est une base de joueurs qui est toujours vivante.
Sachant que moi, je me souviens d'une Pokémon Go Fest où ils avaient dû refuser du monde parce qu'il y avait plus de 100 000 inscrits. Mais c'était en 2019. Parce que entre temps, il y a eu un truc qui s'appelle le Covid.
Oui, ça a un peu calmé le.
Qui a beaucoup calmé, qui a beaucoup calmé dehors. Le fait de sortir dehors.
Mais du coup, donc, ce qui est estimé pour Scopely, c'est là, avec l'achat de la division jeu de Niantic, c'est de mettre la main sur une communauté d'environ 1,5 milliard de personnes. Parce que si on ajoute les gens de Pokémon Go, de Pikmin, de Monster Hunter Now, etc., à sa base de données donc, qui existe, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est déjà Monopoly Go, Scrabble Go, ce que tu veux, enfin, c'est déjà des millions et des millions de gens.
Oui, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est, tu sais, ce dont on parle, les Pikmin et Monster Hunter Now. C'est surtout une base asiatique. Hein. C'est,
ah oui, oui. Voilà, c'est, mais c'est une base asiatique. On parle simplement de nombre de personnes.
Oui, oui, court, non, mais c'est juste, en fait pour dire, tiens, mais ces jeux-là, en fait, j'en ai à peine entendu parler. Encore plus, voilà. Pikmin, par exemple, Pikmin qui est connu par trois pélos
ici, Europe,
tu
vois.
En tout
cas, oui, enfin, dans le monde occidental en général.
Dans le monde occidental, vraiment. Alors que non, phénomène en Asie, au Japon et en Asie de manière particulière. Et alors Monster Hunter, déjà que c'est en train de bien percer ici, mais alors là-bas...
Là-bas, c'est déjà le truc, c'est un truc de fou depuis des années.
Ouais.
Mais du coup, tu le disais, pourquoi Niantic a vendu, en fait? Pourquoi a vendu? Ils ont vendu une telle poule aux œufs d'or. En fait, il y a plusieurs sources donc, qui disent qu'ils avaient des difficultés financières, malgré le succès continu de Pokémon Go. Ils ont connu des échecs avec d'autres tentatives de reprendre le même principe que Pokémon Go. Donc Harry Potter Wizards Unite, qui s'est planté. NBA All World, qui s'est planté également.
C'était cher aussi. Ouais.
Et qui avait procédé à des licenciements, à la fermeture de studio en 2023. La vente de sa vision jeux vidéo permet également à Niantic de se recentrer sur un autre projet.
Oui.
C'est un projet Niantic spatial.
Oui, oui, la partie carto, etc.
Exactement, qui donc, ils vont se concentrer là-dessus maintenant. Une nouvelle entité dédiée au développement d'intelligence artificielle basée sur sa vaste base de données cartographiques du monde réel. Ils ont plus de 30 milliards d'images. Il y a quelques chiffres en fait, qui ont été cités par des sources en termes de financement de cette nouvelle... de ce nouveau projet, donc de Niantic spatial. Ils parlent de 250 millions de dollars, dont 200 viennent du bilan de Niantic, et 50... d'un investissement de Scopely. Ce qui me semble... Enfin, il en manque. En fait, on parle de... Ils ont acheté ça 3,5 milliards.
Merci.
Il en manque un peu.
Ouais.
Bref. Mais les articles, en tout cas, qui parlent de ça, se concentrent évidemment sur la partie jeux vidéo.
Voilà.
Et sur le... Mais du coup, voilà.
Il y a un autre truc aussi, hein, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer que, en gros, c'est un peu le même problème auquel s'expose Epic par rapport à Fortnite. C'est que tu as un jeu... littéralement monstrueux d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue gestion, etc. Et que en dessous d'une certaine taille, en fait, ça devient trop cher de le maintenir.
Ouais.
En fait, ça devient trop cher de le maintenir à qualité constante, tu vois.
La question, c'est ça. C'est est-ce que ça va continuer finalement?
Je pense que Niantic s'est dit.
C'est maintenant qu'il faut vendre.
C'est maintenant qu'il faut vendre parce qu'en fait, soit t'investis sur une partie qui est uniquement la base, le socle technique, en gros. Et sur lequel tu vas continuer à avancer. Et en plus, vu que c'est la mode, tu peux investir et trouver des sous dessus. Alors que le côté, en fait, quand tu le joues, tu dois gérer l'exploitation. Et là, ils n'ont plus à gérer l'exploitation de rien du tout. Quoi. Donc,
ah oui, complètement.
Et c'est pour ça que je relis à Fortnite. Pareil,
ouais,
c'est-à-dire qu'à un moment, Fortnite, ça marchera moins. Alors, en ce moment, ça marche moins, mais c'est toujours des chiffres.
Ça marche moins, mais ça reste vivant.
Voilà. Mais quand ça.
C'est ça qui est intéressant, effectivement, parce que donc, John Hank. Qui est donc le CEO de Niantic, qui a exprimé sa confiance dans la capacité de Scopely, évidemment, à maintenir les jeux et à continuer à les faire vivre, parce qu'ils ont racheté la division, ils ont racheté les IP, ils ont racheté les équipes, et les jeux continueront à être développés par exactement les mêmes équipes qui développent actuellement les jeux. Ils l'ont d'ailleurs dit exactement comme ça, nos jeux, applications, services et événements continueront à vivre sous la supervision de Scopely, mais seront gérés par les mêmes équipes qui sont celles qui les ont créées.
Oui,
donc ils repartent vraiment avec tout le groupe sous le bras.
Il faut savoir que les deux créateurs de Niantic côté jeux vidéo, ils sont aussi là et ils ont été transférés chez Scopely.
C'est ça, c'est la partie jeux vidéo en entier.
En entier, c'est vraiment... C'est pas juste j'ai pris les IP et je vis de la coquille, ils ont...
Alors,
tout prix.
On verra évidemment dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, comment ça marche et à quel point ils vont gérer ça autrement.
Pour le coup, en tout cas, j'ai pas souvenir du côté de chez Savvy Group de politique de licenciement massive.
Ça a rarement été évoqué, effectivement.
En tout cas, je dis pas que c'est pas arrivé, je dis que ça ne me dit rien.
Non, mais et pourtant, effectivement, Savvy Group, on peut rajouter maintenant donc cet énorme groupe qui était déjà, donc ils avaient déjà une position incroyablement massive dans le jeu mobile. Aujourd'hui, c'est encore plus grand, enfin c'est encore plus n'importe quoi. Mais on rappelle donc que Savvy Group, ils ont investi dans beaucoup d'autres trucs. Ils avaient mis $1 milliard dans Embracer.
Oui.
Ils ont 96% de SNK. Ils ont 3 milliards dans des actions Activision Blizzard. Avant le rachat par Microsoft, ils avaient 3 milliards dedans.
Oui.
Ils ont $1 milliard de Tech2. Dans Tech2, ils ont 10% d'Electronic Arts. Mm-hmm. Ils ont, je crois que ça avait baissé un peu. Ils ont 6, ouais, de Nintendo.
Ouais, 6 de Nintendo.
Mais bon, voilà, enfin, c'est qu'une partie de ce qu'ils ont investi.
Ils ont racheté, là, on parle que des jeux premium. Parce que tu parles pas de le fait qu'ils ont racheté le SL.
Qui est l'organisation d'e-sport.
Une des plus grosses organisations d'e-sport au monde. Oui. Et puis, entre guillemets, là, ça va, on parle que de jeux vidéo, quoi. On parle pas du fond global pour tout ce qui est entertainment, notamment entre les contrats avec la WWE, les contrats pour l'accueil d'événements sportifs.
Oui, bien sûr, mais c'est ça, c'est exactement la logique en fait que Ben Salman d'ailleurs a déjà régulièrement déclaré vouloir développer son secteur. Ils veulent
juste faire en sorte que
réduire la dépendance de l'économie saoudienne au pétrole, c'est comme ça qu'il l'avait déclaré, et c'est une analyse qui est relativement partagée, même on va dire simplement visuellement, quoi, enfin simplement au niveau de la communication extérieure. Ils veulent réduire, enfin en tout cas se lancer dans d'autres domaines, et le jeu vidéo est perçu comme un des domaines à fort potentiel de croissance dans lesquels ils ont investi, parce qu'ils ont investi dans beaucoup d'autres trucs. Donc on rappelle que l'investissement massif de l'Arabie Saoudite dans ces domaines-là, que ce soit le jeu vidéo, le sport, c'est évidemment toujours mis en évidence comme du sports washing, ou le terme de poké washing vient d'arriver. Tout simplement pour, évidemment, ne pas parler du bilan épouvantable en matière de droits de l'homme du pays, de la criminalisation de l'homosexualité, des accusations donc envers Ben Salman sur l'assassinat et le découpage du journaliste Jamal Khashoggi. Donc voilà, on est vraiment donc dans cette logique de considérer tous ces investissements extérieurs comme une tentative de détourner l'attention de ces problèmes sociétaux et de droits humains. L'acquisition d'une marque aussi populaire que Pokémon Go, évidemment, elle va complètement dans ce sens. Et le prince héritier donc avait déclaré relativement récemment lui-même ne pas se soucier de ces accusations, et même de reprendre le terme en lui, parce qu'il disait si le sports washing me permet d'augmenter le PIB du pays, ne serait-ce que d'1%, je continuerai à faire du sports washing.
Évidemment.
Il a utilisé le terme de cette façon, si tu veux. Donc il l'a validé, le principe. Pour terminer, donc là, on parle de la déclaration qui a été faite hier, mais techniquement, la transaction, elle reste encore à valider. Elle reste soumise à l'approbation des autorités de régulation, comme on avait eu le feuilleton avec Microsoft et l'achat de Activision Blizzard King. Même si tout, pour l'instant, l'acquisition finalisée est toujours prévue pour 2025, donc ça devrait arriver la décision devrait arriver dans pas si longtemps. Comme on le disait, donc ça, c'est encore une fois une façon de renforcer la position de l'Arabie Saoudite sur le divertissement numérique et le divertissement tout court.
Oui.
Comme tu l'as rappelé, sur l'organisation d'événements, sur l'organisation de sport, etc. Les Jeux Olympiques d'e-sport, on n'en a pas vraiment parlé, mais je crois que c'est un projet qui a été validé avec le CIO, le Comité International Olympique, qui aurait dû commencer cette année, mais finalement qui est reporté à 2027.
Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de...
En fait, il a été repoussé officiellement, mais il y a eu, à la base, ça devait commencer relativement bientôt.
Ouais, je sais bien, mais bon, ça reste flou, cette histoire.
Ça reste très flou, mais si tu veux, c'est une nouvelle façon de s'intégrer au sport et de rentrer, par la porte de l'olympisme dedans. C'est quand même pas rien non plus, même si c'est que du côté e-sport, mais voilà, c'est à nouveau une façon. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de truc d'organiser, etc.
J'espère que ça va pas entacher la réputation incorruptible du CIO.
Ce serait quand même dommage. Ce serait quand même dommage. Effectivement, une institution aussi respectable depuis des dizaines et des dizaines d'années.
Aussi vertueuse, évidemment.
Oui, je pense qu'on peut, à côté de ça, pour vraiment te mettre au même niveau, tu peux mettre que la FIFA.
Je trouve que tu vas un petit peu loin.
est-ce qu'on laisse transparaître un tout petit peu trop ce qu'on en pense? Oui, bien évidemment.
Moi, j'ai envie de dire, sur ces bonnes paroles.
Mais voilà, c'était important, je pense, en termes de...
Oui, bien sûr.
De paysage vidéoludique et financier. Comme tu le disais tout à l'heure, les gros sous, les gros sous, ils sont là. On parle de 3,8 milliards dans le meilleur des cas. on peut voilà, et de boîtes qui balancent
non,
ces milliards là
non mais c'est bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Savvy Group.
Mais oui, mais en même temps bah ils font pas d'efforts, ils achètent pas des trucs toutes les semaines, on est obligé d'attendre des fois 3 4 5 semaines avant d'en reparler.
En fait le truc c'est surtout que ils sont sur des domaines qui sont moins clinquants que le jeu premium.
Plus rarement, en tout cas. Et parce que au niveau de l'investissement direct, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement des bouts d'Embracer, ils ont des bouts de Tech2, ils ont des bouts de machin. Mais
le plus gros truc qu'ils ont acheté en jeu premium, c'est SNK. Et SNK, c'est une boîte qui est en large déclin.
En tout cas, qui était déjà un domaine de niche.
Mais voilà,
le jeu de baston japonais, enfin, c'est ça. Ça restait un domaine de niche.
C'est ça. Mais c'est intéressant, par exemple, quand on parle d'un nouveau King Fatal Fury ou King of Fighter, tout ça.
Oui.
Il y a personne ne dit tiens, il y a Savvy Group derrière, tout ça, on s'en fout,
c'est pas ses crèmes.
Donc
voilà. C'est important de le rappeler et c'est pour ça que c'était le bon moment.
C'est intéressant
moment d'en parler. Oui. Bah merci en tout cas.
Merci à toi. Semaine prochaine.
Oui.
On sera pas là, mais on sera pas loin en fait.
Exactement.
On sera juste à côté du studio dans un bar qui s'appelle Chez les Tartes. Où on fera notre xème édition
de notre quiz blind test mensuel.
Voilà, qui s'appelle donc Prestart, où il y aura globalement du rock'n'roll, du jeu vidéo, de la mauvaise foi.
Oui, c'est un bon résumé.
Ouais, voilà. Et donc, venez, hein, on va passer une très très bonne soirée ensemble.
C'est ça, à partir de 8h, 8h30.
Voilà.
Dans ces eaux-là.
C'est ça.
Et on espère vous y voir sur les ondes.
C'est ça, à la prochaine, rendez-vous la semaine prochaine chez les Tartes.
Des bisous.
Ciao.
Salut.